quand je ramènerai les captifs de mon peuple, lorsque je voudrai guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue en dehors, au dehors. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leur cœur, leurs œuvres les entourent. Elles sont devant ma face. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté et les chefs par leurs mensonges. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Ils cessent d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Au jour de notre roi, les chefs se rendent malades par les excès du vin. Le roi tend la main aux moqueurs. Ils appliquent aux embûches leur cœur pareil à un four. Toute la nuit dort le boulanger et au matin, le four brûle comme un feu embrasé. Ils sont tous ardents comme un four et ils dévorent leurs juges. Tous leurs rois tombent, aucun d'eux ne m'invoque. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu. Et ils ne le cherchent pas malgré tout cela. Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet. Je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtierai comme ils en ont été avertis dans leurs assemblées. Malheur à eux parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont comme un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leur langue. C'est ce qui les rendra un objet de risée dans le pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Amen. Je sais qu'on a fait quand même un arrêt dans le temps qui est quand même assez considérable, donc je vais essayer de faire un bref résumé en introduction. Et donc, le rôle d'Osée en tant que prophète consistait à mettre en évidence ici la violation de l'alliance d'Israël et l'intention de Dieu de déverser des malédictions consécutives à cette transgression. Les thèmes dominants du message d'Osée peuvent se résumer en trois mots: péché, jugement et salut. En exposant le péché d'Israël, Osée insistait beaucoup sur son idolâtrie. Il comparait la relation d'alliance entre Dieu et son peuple à un mariage, donc à un époux dont l'épouse est infidèle. Il traitait Israël d'adultère spirituel. Israël s'était tourné vers Baal, vers des idoles. Son message principal était un jugement sur l'idolâtrie d'Israël et le péché d'Israël. Et donc à partir du chapitre 4, le prophète prononce un discours qui condamne cette idolâtrie et cette immoralité d'Israël. Mais nous avons vu qu'au chapitre 5, lorsque le prophète terminait par une note d'espoir, le Seigneur parlant d'attendre que son peuple puisse revenir à lui, dans une foi qui était véritable. Et donc, à partir des versets 6, et en continuant au verset 7, nous voyons qu'il y a que Osée dénonce le péché constant, l'idolâtrie d'Israël. Et ici, Osée, dans ces textes, se distingue par deux thèmes. Le premier thème est la grâce persistante de Dieu, qui n'abandonnera pas son peuple jusqu'au dernier moment. Malgré toute la méchanceté déjà exposée en Israël, il commence par dire « Quand je ramènerai les captifs de mon peuple, quand il ramènera les captifs de son peuple. » Et malgré tout, Dieu dit encore au verset 13 « Je voudrais les sauver. » Malgré leurs péchés, le Seigneur voulait sauver son peuple. Et donc, deuxièmement, malgré toutes les offres de grâce du Seigneur, Israël est constant dans son péché. Malgré tous ses appels à la repentance, Israël continuait à baigner dans son péché. Et nous allons voir aussi que Osée 7 est remarquable par ces métaphores qui sont révélatrices du péché du peuple d'Israël. Donc, sans plus tarder, mon premier point, le péché d'Israël dévoilé. Le chapitre 7 se poursuit avec des accusations qui ont été commencées au chapitre 4, qui étaient centrées sur tous les dirigeants qui étaient infidèles. Donc on a vu qu'il y avait la classe sacerdotale qui avait manqué à son devoir de conduire le peuple à la connaissance du Christ, parce qu'ils ont failli dans cette tâche-là, donc ils ont été condamnés. Ici, nous avons la mise en évidence de la flagrante dépravation d'Israël qui a annulé la miséricorde offerte par Dieu. Donc nous lisons « Quand je ramènerai les captifs de mon peuple, lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. » Et la Samarie, cette ville, comme on le sait, était la capitale principale du gouvernement, mais elle représente aussi toute la nation entière. Donc ce n'était pas seulement les chefs et les rois qui péchaient, mais c'était toute la nation qui était en faute. Cette société tolérait le mal sous toutes ses formes. Et les yeux de Dieu se posent d'abord sur l'effondrement de l'ordre civil. Alors que des criminels dominent le pays, nous lisons verset 1, « Car ils ont agi frauduleusement, le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors. » Donc, nous pouvons voir que peu d'efforts ont été consentis pour sécuriser les gens, pour sécuriser les routes et protéger le peuple contre le vol. La criminalité est omniprésente dans la société. Les gens se mentent les uns aux autres. On parle de fraude, on parle de mensonge. Les voleurs cambriolent et les gangs agressent les gens dans les rues. Et donc, après avoir dénoncé les prêtres, le sacerdoce, Osée s'attaque maintenant à la corruption dans le royaume d'Israël. Le prophète accuse alors tous les citoyens de la Samarie et tout le peuple, parce qu'ils obéissent au roi par des flatteries. Nous lisons, ils réjouissent le roi, au verset 3, par leur méchanceté et les chefs par leur mensonge, par des compliments exagérés, par des flatteries au roi. Non seulement les fonctionnaires du roi ne font rien pour lutter contre cette ascendance du péché, mais ils se délectent du péché et ils y prennent plaisir. Pour décrire cette scène politique, Osée prend l'exemple d'un four à pain surchauffé. Osée utilise cette scène pour dépeindre la cour royale d'Israël. Au verset 4, il dit « Ils sont tous adultères, sans exception, semblables à un four chauffé par le boulanger. Ils cessent d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. » Et on va s'entendre ici quand on dit qu'ils sont tous adultères. Il parlait plus d'une infidélité spirituelle. On ne parle pas de relation entre hommes et femmes, mais c'est une infidélité qui est spirituelle. Au lieu de se tourner vers le Créateur, mais ils se sont tournés vers la créature. Ils adoraient les hommes. Ils appellent adultères parce qu'ils avaient violé la foi promise à Dieu. Parce qu'ils s'étaient livrés au culte de Baal. Parce qu'ils s'étaient entièrement corrompus. Entièrement corrompus. Et donc quand les hommes se corrompent dans toute leur vie et s'éloignent de leur Dieu pour des idoles, ils sont à juste titre considérés comme des adultères. Ils ont péché volontairement, ils ont saisi avec ardeur l'occasion de pécher et qu'ils ont été chauffés comme un four ardent. Un four chaud qui n'est pas utilisé pour l'usage auquel il est destiné, décrit les passions mal dirigées d'un peuple qui est pris dans l'idolâtrie. Et ce feu ne s'est pas allumé soudainement. D'un seul coup, ce feu fut allumé depuis longtemps, parce que depuis ils prenaient plaisir dans leur péché. Et nous lisons au verset 5, au jour de notre roi, quand on dit au jour de notre roi, il y a des commentateurs qui parlent de l'anniversaire du roi, mais ici il est plus question du jour du couronnement du roi. Parce que vous allez remarquer que par la suite, il y a une série, une succession de coups d'État qui ont fait chuter les rois à cette époque. Et donc, au jour de notre roi, les chefs se rendent malades par les excès du vin. Le roi tend la main au moqueur. Le prophète réprimande ici surtout le roi et ses princes. Au jour du couronnement de roi, c'est-à-dire que les excès ont été si grandes que le roi lui-même est tombé dans l'excès. En bref, le prophète veut dire que les membres du gouvernement du royaume d'Israël étaient devenus si corrompus que dans la salle ou le palais du roi, il n'y avait plus aucun respect pour l'autorité en place. Il n'y avait plus aucun respect pour le roi. Était là. Le roi aurait dû se conduire d'une manière digne, du rang, du plus grand honneur. Parce que les moqueurs sont ceux qui dédaignent obstinément et avec mépris la correction et la réprimande. Ce sont des insensés, les moqueurs. Le roi devait se dissocier de leur attitude et de leur comportement, comme on le voit au psaume 1, verset 1. Plutôt que de se joindre à eux ou d'agir comme eux, il devait se dissocier de ses péchés et de ses pratiques. Et au verset 6, nous voyons que les proches du roi se livraient à une véritable guerre de pouvoir. Le roi était entouré des personnes, en effet, qui voulaient les faire sauter, comme on dit. Au verset 6, nous lisons, « Ils appliquent aux embûches leur cœur pareil à un four, comme le feu qui brûle toute la nuit. Leurs agissements ne connaissent pas de fin. Toute la nuit dort leur boulanger et au matin, le four brûle comme un feu embrasé. » Ils ont préparé leur cœur afin de faire le mal. Ils étaient autour du roi, mais ils préparaient par ces flatteries mensongères, par ce respect qui n'avait pas lieu d'être, mais ils préparaient le mal dans leur cœur. « Bien qu'ils n'aient pas d'abord manifesté leur méchanceté, ils ont cependant préparé leur cœur d'avance, comme on allume le four, ou comme on chauffe le four avant de préparer le pain. Parce que le boulanger, en effet, même quand, si vous êtes un cuisinier, vous allez remarquer qu'avant d'enfourner quelque chose, vous allumez le four. Et vous le préparez à l'avance avant d'introduire quelque chose. Et c'est de cette façon qu'ils se comportaient avec le roi. Qu'ils préparaient d'avance leur mauvaise œuvre, leur mauvaise action. Ces actions ont été conçues dans leur cour et dans leur cœur avant de se traduire en actes de méchanceté manifeste. Et donc, l'un après l'autre, les rois sont tombés sur les lames des imposteurs, avant d'être eux-mêmes victimes de coups d'État. Osée a dit, verset 7, « Ils sont tous ardents comme un four et ils dévorent leurs juges. Tous leurs rois tombent. » Il s'agissait d'un feu qui ne s'éteignait pas. Il s'agissait d'un feu qui continuait de faire des ravages. D'une part, ce n'est pas surprenant que l'histoire de la royauté d'Israël se soit déroulée de la sorte. Après l'échec du long règne de la maison de Jéroboam, les rois sont montés sur le trône par l'épée et ils sont tombés de la même manière. D'autre part, l'aveuglement de la nation est frappant. Et il ne fait aucun doute que les années qu'ils ont passé à s'adonner au culte de Baal, les ont aveuglés spirituellement. Ils baignaient tellement dans l'idolâtrie qu'ils étaient aveuglés, ils ne voyaient rien de ce qui se passait. Et Osée 7, verset 2, le verset 2 observe, « Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs œuvres les entourent. Elles sont devant ma face. » Et en hébreu, le mot « cœur » désigne l'ensemble de l'homme intérieur, l'esprit, les émotions, la volonté. Et tout cela était méchant. Et le Seigneur le voyait. Et le Seigneur le savait, parce qu'il sait tout. Notre Dieu est omniscient. Mais ils avaient oublié que le Seigneur voyait tout. Voyait ce qu'ils avaient dans leur cœur. Voyait ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Ici, l'accent est mis sur l'activité mentale. L'idée est qu'ils n'ont pas réfléchi au fait que Dieu se souvient. Ils refusaient de penser à ce à quoi Dieu pensait. Ils le faisaient délibérément et intentionnellement. Tout cela veut dire qu'ils étaient endurcis. Ils péchaient délibérément. Et lorsqu'on arrive à ce stade-là, c'est qu'on a une entière. Disons comme entière, on ne voit plus le bien que le Seigneur, que Dieu nous demande de faire. On est tellement endurci, qu'on est tellement aveuglé par le mal. Ainsi, lorsque Dieu regarde Israël, il ne voit rien d'autre qu'un mal qui ne diminue pas, mais qui va en augmentant. Et le contexte historique ici est la succession des rois d'Israël après la chute de la maison de Jéroboam. Lorsque Zacharie, Shalum, Menahem, Pekachia, Péka et Osée, fils d'Éla, se sont élevés et sont tombés successivement. Deux rois 15. Vous pouvez le lire là. Et l'effondrement de ces gouvernements annonçait et anticipait le jugement de Dieu sur cette nation qui était si infidèle aux yeux de Dieu de l'Alliance. Une longue pratique de l'iniquité avait endurci le cœur du peuple, au point où le concept même du péché n'avait plus de sens pour eux. Ces péchés sont devenus un comportement qui était normal et acceptable dans cette société. Puisque tout le monde péchait, du roi jusqu'à la simple personne. La honte manifestée par le prophète Osée concernant l'état moral et spirituel d'Israël nous sert d'avertissement dans nos sociétés post-modernes où dans nos églises nous autorisons le mariage homosexuel, où nous faisons des compromis avec le péché juste pour faire plaisir aux gens. Mais nous devons dénoncer le péché. Nous devons nous éloigner du péché. Nous allons dans le monde pour témoigner de Christ. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons adopter le mode de vie des impies. Parce que nous sommes sel et lumière dans ce monde. Amen. Donc ce qui est vrai pour Israël en tant que nation se reproduisait dans la vie personnelle des dirigeants d'Israël. Mais les dirigeants n'ont pas non plus songé à s'humilier en faisant appel à leur Seigneur. Au verset 7, nous lisons « Tout leur roi tombe, aucun d'eux ne m'invoque. Tout leur roi tombe et aucun d'eux, personne n'invoque le Seigneur. Personne ne prie le Dieu de l'Alliance. » Malgré les signes de détresse, leur incapacité à invoquer le Seigneur dans la prière témoigne d'un esprit d'autosuffisance. Ils étaient autosuffisants. Ils n'avaient pas besoin de ce Dieu-là qui les avait délivrés. Ils manifestaient cette autosuffisance. La prière est toujours un indice de notre degré, d'un degré de notre dépendance à Dieu. Par la prière, nous montrons à notre Seigneur que nous dépendons entièrement et exclusivement de lui. Le roi Zacharie a hérité du trône de son père, Jéroboam II, et il n'a pas invoqué le Seigneur. Après seulement 6 mois, il fut assassiné, mettant à sa place Shalom, son meurtrier. Ce roi, Shalom, ne s'est pas répenti et n'a pas prié non plus. Et après avoir régné 1 mois seulement, son rival Menahem l'a tué et s'est emparé de la couronne. Menahem non plus n'invoqua pas le Seigneur. Mais après 10 ans, il mourut naturellement et laissa son fils Pekachia comme roi. Ce roi non plus n'invoqua pas le Seigneur. Et au bout de 2 ans, son général Pekach lui ôta la vie et la couronne. Et il en fut ainsi jusqu'à ce que le dernier roi Osée soit emmené et enchaîné. Et nous n'avons pas besoin d'imaginer ce qui serait arrivé si l'un de ces rois s'était repenti, s'était tourné vers le Seigneur, avec une foi renouvelée, avait abandonné ses idoles et avait adoré le Seigneur avec une foi véritable. Lorsque nous considérons l'absence de prière parmi les chrétiens aujourd'hui, y compris des fois la disparition de certaines rencontres de prière, il faut reconnaître que la prière est le parent pauvre de l'Église. Même les mercredis, on n'a pas autant de monde que le dimanche. En tant que chrétiens, nous n'avons pas besoin de regarder à des solutions humaines. Et lorsqu'on voit aussi les pays, les États, on n'a pas besoin de se dire on a besoin d'un nouveau Premier ministre pour que tout aille mieux. On n'a pas besoin de frappes nucléaires pour que tout aille bien dans le monde. ou d'un nouveau président, par exemple, pour que tout aille bien. Mais ce que nous devons faire, c'est plutôt de prier, de demander de l'aide à notre Seigneur. L'apôtre Paul rappelle aux chrétiens qu'il est de notre devoir de prier pour ceux qui détiennent l'autorité. C'est important. Et je vous ai même envoyé des sujets de prière où j'ai inclus quand même cette partie qui est très importante. 1 Timothée 2, versets 1 à 2. « J'exhorte donc avec toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » La prière, pour tout homme, est à la fois un privilège et aussi une obligation pour tout chrétien. C'est un privilège que d'être reçu en audience par Dieu pour lui présenter nos frères, nos sœurs, nos semblables. Et donc, les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, doivent occuper aussi une place particulière dans nos prières. Ce sont des pécheurs aussi. C'est vrai qu'ils sont des personnes en autorité, mais c'est des pécheurs également. Paul nous rappelle aussi que les autorités qui existent, dans Romains 13, sont ordonnées de Dieu. Et qu'elles sont au service de Dieu pour notre bien. Romains 13, verset 4. Et donc, ça ne nous servira à rien d'être critique à l'égard de nos gouvernements, de nos autorités. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, j'entends dire « Ah, Dieu merci, Donald Trump est arrivé », et ainsi de suite. Mais Donald Trump s'en ira au bout de 4 ans. C'est que les rois de ce monde vont se succéder. Mais l'Éternel, lui, il est éternel. Dieu est éternel. Et donc, ce que nous devons faire, c'est de demander au Seigneur de leur donner la sagesse afin de mieux exercer l'autorité qui leur est conférée. Que ce soit dans l'Église, que ce soit dans nos gouvernements, au lieu d'être critique, d'être négatif, ce sont des pécheurs, priant pour eux. Que le Seigneur leur donne la sagesse, leur donne les outils, les équipes, afin que nous menions une existence paisible et que nous puissions l'adorer en paix et en sécurité. Mon deuxième point, le péché d'Israël sanctionné. Et donc après avoir exposé le péché d'Israël, dans la première section, des versets 8 à 12, nous voyons comment le péché d'Israël a été sanctionné par le Seigneur. Ce récit commence par la deuxième métaphore imagée d'Osée qui compare Éphraïm à un gâteau qui n'a pas été retourné. Ceux qui cuisinent un peu, ça doit vous dire quelque chose. Un gâteau non tourné, brûlé d'un côté, cru de l'autre, c'est un gâteau qui serait immangeable. L'image décrit l'incapacité de la nation à remplir sa mission. La nation instituée pour être sainte, comme on le lit dans Exode 19, s'est alliée aux païens au point d'être elle-même impie. Ici, le prophète examine la ruine des efforts diplomatiques d'Israël. Au lieu de se tourner vers le Seigneur dans la foi, une repentance qui était véritable, en s'appuyant sur son pouvoir éprouvé de sauver, parce que le Dieu de l'Alliance les avait déjà sauvés. Israël a poursuivi une collection folle d'alliances et qui était toujours changeante. Éphraïm se mêle avec les peuples, se plaint Osée au verset 8. Au lieu de mettre l'accent sur son statut de peuple élu de Dieu, puis de garder pure sa vraie religion, la tribu principale d'Israël a cherché à recourir à la communauté des nations, à des alliances externes. Au lieu de répondre avec foi à l'appel d'Osée à revenir au Seigneur, comme on l'a vu au chapitre 6, des versets 1 à 3, les chefs se sont rapprochés le plus possible du milieu culturel de l'époque. Ils se sont rapprochés des incroyants en adoptant leur style de vie. En conséquence, ils sont devenus à peine reconnaissables en tant que peuple de l'Alliance. Le Seigneur ne les reconnaissait plus. Comme c'est souvent le cas lorsque des chrétiens tentent de faire des compromis avec des environnements qui sont malveillants. Lorsqu'on fait des compromis avec le péché, nous aurons cette ouverture-là à vivre selon le monde, selon la direction du monde. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur souhaite pour nous. Et nous sommes mis en garde par cette stratégie d'accommodement culturel. Jésus s'est adressé à l'église de Laodicée, comme on l'a vu avec Pasteur Perrin dans Apocalypse, dans le chapitre 3. Jésus s'est adressé à l'église de Laodicée en des termes qui rappellent cet Israël d'Osée. Où nous lisons Apocalypse 3, 15 à 16, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Le Seigneur aurait préféré voir Israël soit nettement indifférent, soit vraiment zélé. Au contraire, elle était assez chaude pour donner l'impression qu'elle était avec Dieu, mais assez tiède envers des choses divines parce qu'elle adorait Baal. En outre, cela a donné la nausée au Seigneur. Et ça donne la nausée à notre Dieu. Israël se caractérisait par l'orgueil, par l'ignorance, la suffisance et la complaisance. Osée décrit, au verset 9, « Des étrangers consument sa force et ils ne s'en doutent pas. » Ce scénario conduit à une autre métaphore. Versets 9 à 10, « La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel leur Dieu et ils ne cherchent pas. Ils ne le cherchent pas malgré tout. » L'idée ici, c'est celle d'un homme qui n'a pas pris la mesure de ses forces qui déclinent. Des forces à cause de son péché, de cette force-là qui décline, qu'il est en train de perdre. Au fur et à mesure que le vieillissement s'installe, au fur et à mesure que le temps passe, il ne prend pas conscience de ce qu'il est en train de perdre, de cette capacité qu'il avait dans son Dieu de l'Alliance. Il est en train de perdre toutes ses capacités. Croyant posséder une force qui n'exclut plus, sa vantardise n'est pas à la hauteur de ses exploits. Israël orgueilleux, il ne songe pas à s'humilier devant le Seigneur, ni cherchant la rédemption, malgré cette ruine qui l'entoure. Et une autre métaphore, ici, une image suit, c'est celle de la colombe. Ces oiseaux, bien que pacifiques, ils étaient réputés parce qu'ils n'avaient pas d'intelligence. Ils allaient dans toutes les directions. Ils étaient particulièrement peu dignes de confiance en tant qu'oiseaux migrateurs, car ils volaient dans toutes les directions, sans savoir où ils se trouvaient. Et nous lisons au verset 11, « Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte Il va en Assyrie. Telle était la folie d'Israël. Peu disposé à offrir un repentir sincère pour gagner la foi en Dieu, en ce Dieu de l'Alliance. Et il s'agit d'un rappel pour nous tous que toutes nos actions et nos pensées sont ouvertes et parfaitement connues de Dieu. Et qu'elles devraient donc motiver en nous un comportement sain, de marcher sainement tous les jours. On peut se dire que Dieu ne nous voit pas, que les autres ne nous voient pas. Mais non, c'est faux. Dieu voit tout. Dieu voit tout ce que nous avons, tout ce que nous mijotons dans notre cœur. Est-ce que nous mettons réellement confiance? Est-ce que nous mettons cette confiance en notre Dieu? Est-ce que nous nous reposons entièrement en lui? Est-ce que nous nous basons uniquement sur notre intelligence, sur notre soi-disant sagesse? Est-ce que nous sommes tellement autosuffisants que nous sommes si orgueilleux que nous n'avons même pas cette inclinaison à demander le secours de Dieu, son aide, dans notre misérable existence? Le Seigneur nous appelle en nous offrant la bénédiction du salut. Il vaut mieux écouter les paroles de David dans le psaume 37, des versets 3 à 4, nous lisons « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Amen. La situation d'Israël a été aggravée par le châtiment du Seigneur lui-même. Au verset 12, nous lisons « Je les précipiterai comme les oiseaux du ciel, je les châtierai comme ils ont été avertis dans leurs assemblées. » Dieu réagit au péché de son peuple comme il avertit dans sa parole. Il avertit, il nous avertit dans sa parole. Il nous avertit dans sa parole de marcher selon ses préceptes. Il nous appelle à une connaissance de sa personne. Il nous appelle à une intimité exclusive avec lui. Jésus a réprimandé les Laodicéens infidèles. Apocalypse 3, verset 17. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Et pour un Israël sans foi et orgueilleux, la réaction de Dieu impliquait la perte des richesses, la perte des possessions. Parce qu'ils se sont reposés sur leurs acquis, ils se sont reposés sur leurs richesses. Que le Seigneur les dépouille de tout ce qu'ils ont. Parce que c'est le Seigneur qui donne tout ce que nous avons. C'est le Seigneur qui nous donne un emploi. C'est le Seigneur qui nous donne une famille, qui nous donne des enfants. Et lorsque nous ne venons pas à lui, et lorsque nous ne reconnaissons pas que c'est lui qui nous les donne, ben il s'ensuit ce qui s'est passé pour Israël, c'est qu'il nous dépouille de tout. Mais ce n'est pas pour notre malheur, c'est qu'il veut nous emmener à lui, il veut nous appeler à une repentance. Si nous évaluons notre propre vie et que nous voyons une parabole de l'époque d'Osée, Jésus nous appelle à nous repentir. Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Mon troisième point, les lamentations de Dieu sur le péché d'Israël. Et donc, cette dernière partie détaille les lamentations de Dieu à l'égard d'Israël. Nous lisons au verset 13, « Malheur à eux parce qu'ils me fuient, malgré les péchés des Israélites qui ont mérité toute la destruction déversée sur eux, le Seigneur s'afflige pour son peuple. Il sait que ce ne sont pas les nations ennemies qui sont à l'origine de leur désastre, mais c'est leur propre éloignement de la foi, c'est leur propre éloignement de Dieu. » La justice de Dieu crie, verset 13, « Malheur à eux parce qu'ils me fuient, mais la miséricorde de Dieu répond, je voudrais les sauver. » C'est un Dieu formidable. Mais malgré ça, il veut sauver son peuple. Nous voyons ici cette tension dans le cœur de Dieu révélée tout au long du livre d'Osée. Typifié par le mariage du prophète avec une femme adultère qu'il aimait. C'est comme si son peuple le mettait dans l'embarras. Il est déchiré entre deux passions. Appliquer la justice ou faire miséricorde. Dieu répond par la fidélité obstinée d'Israël. Mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Israël dit des paroles contre son Dieu, qui sont mensongères. Il s'agit sans aucun doute de cette fausse religion, de cette fausse adoration, des cultes de Baal qui les ont éloignés du Dieu de l'Alliance. Ils prétendaient être des adorateurs du Dieu, mais en effet, ils adoraient. Ils étaient tellement baignés dans cette idolâtrie. En se mêlant aux nations, le peuple d'Israël a perdu en vue l'identité de Dieu. Et en même temps, ils ont perdu aussi leur identité de peuple élu de Dieu. L'Éternel les a souvent délivrés de la mort alors qu'ils étaient en grand danger. Mais ils n'ont pas changé d'attitude. Ils l'ont même privé de la louange qui lui était due pour leur délivrance. Et ils n'ont pas vécu mieux après leur délivrance. Toute une ingratitude, toute une indifférence à l'égard de ce que Dieu a fait pour eux. Puisque donc il n'y a aucun changement pour le mieux, Dieu montre maintenant qu'il ne prodiguerait plus sa faveur à des hommes aussi impies. Ce passage nous enseigne combien notre ingratitude est intolérable. Lorsque, après avoir été rachetés par le Seigneur, nous ne gardons pas la foi que nous lui avons promise et qu'il exige de nous, parce que nous savons que Christ est mort pour nous. Christ s'est fait homme. Mais en venant parmi nous, nous l'avons cloué sur la croix. Car Dieu est notre libérateur, à cette condition que nous lui soyons entièrement dévoués. Entièrement dévoués. Pas tièdement, ne soyons pas tièdes. Que nous ayons un zèle pour lui. Qu'il soit notre Dieu, qu'il y ait cette exclusivité entre lui et nous. Jean Calvin note que « car celui qui a été racheté ne doit pas vivre comme s'il avait droit à lui-même et à sa propre volonté. Il doit être entièrement dépendant de son Rédempteur. » D'où notre dépendance à notre Dieu, par les moyens de grâce aussi. Si donc nous agissons ainsi, dans notre idolâtrie, en nous éloignant de Dieu, après avoir été délivrés par sa grâce, nous serons coupables d'une impiété et d'une trahison envers Dieu qui mérite une double vengeance. Et c'est ce qui, et c'est ce que le prophète nous enseigne ici. Au verset 14, nous lisons, « Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche. » Et là, il s'agit probablement des rituels qu'ils avaient pendant le culte de Baal, destiné à assurer une certaine récolte. Et cette accusation reflète l'attitude du peuple d'Israël à l'égard de Dieu. Ils crient à Dieu avec leur bouche, mais pas d'un cœur sincère. Ce qui est pourtant la principale chose dans notre repentance, c'est de crier à Dieu de tout notre cœur, pas seulement de notre bouche. Et le prophète remarque expressément ce défaut chez l'Israélite. Ils n'ont pas crié vers le Seigneur. Osée montre ici aux Israélites leur dureté de cœur. Ils sont tellement empêtrés dans le péché, qu'ils sont tellement endurcis, que plus rien ne vient de leur cœur. Mais tout est artificiel. Car lorsqu'ils furent frappés par la main de Dieu, ils ne s'enfuirent pas vers lui pour implorer son pardon. Du moins, ils ne le firent pas d'un cœur sincère. Au verset 14, on lit, « Mais ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. » Ils ne s'affligeaient pas d'avoir offensé Dieu. Ça leur était égal de savoir qu'ils avaient fait du mal à leur Dieu. Ils ne se soucient ni de sa faveur, ni de son mécontentement, pourvu qu'ils jouissent du mou et du blé, de cette recotte-là qui espérait tant du culte de Baal qu'il donnait. Les modèles d'adoration païenne sont ici clairement mis en évidence. En adoptant une fausse théologie et un faux culte, le peuple d'Israël, autrefois béni, est devenu lui-même païen et rebelle à la connaissance de Dieu. Et nous lisons au verset 15, « Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, ils méditent le mal contre moi. » C'est littéralement planifier ou concevoir le mal. Rappelez-vous qu'il s'agit des héritiers de Moïse, de l'Exode. Ils ont vécu l'esclavage et ils ont été libérés de l'esclavage. Mais ils méditent le mal contre leur Dieu. Ils sont les descendants de Josué et de sa génération qui ont conquis la terre promise. Leur passé passe par le roi David et son sage-fils Salomon, avec toutes les gloires de la loi, de la foi et de l'adoration qui ont fortifié cette nation. Pourtant, malgré ce passé, la puissance de la corruption du péché est manifeste dans leur vie. Si Israël, avec ses acquis de peuple de Dieu, a pu être réduit à une telle ruine spirituelle, nous sommes avertis que nous devons protéger précieusement notre foi. Prêtons une attention particulière à la parole de Dieu. David nous conseille, dans le psaume 119, les versets 9 à 10, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Malgré tous les bons matériaux utilisés par Dieu dans la construction de son peuple, dans l'édification de son peuple. L'exposition de la nation aux idoles et aux péchés avait déformé l'arc. Nous lisons verset 16. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent, ils sont comme un arc trompeur, un arc qui est déformé. Malgré ce passé, ils se sont fourvoyés, ils se sont trompés de direction. Ici, on parle d'un arc dont la corde est détendue. Et donc, le fonctionnement est aussi défectueux. Donc, ils étaient défectueux dans leur raisonnement, dans toute leur vie, dans leur façon de marcher, dans leur adoration également, parce qu'ils adoraient la créature au lieu du Créateur. Le prophète accuse le peuple de s'être détourné de son Dieu, c'est-à-dire qu'il lui avait tourné le dos. C'est ainsi qu'Israël prétend chercher Dieu, mais se détourne vers ses idoles. Spirituellement parlant, le peuple de l'Alliance ne marchait plus dans la droiture. Assailli par l'iniquité, avec une inclinaison, un penchant pour le culte de l'idolâtrie. Le résultat était inévitable. Leur chef tombera par l'épée à cause de l'insolence de leur langue. Le prophète parle de la vengeance contre les Israélites afin qu'ils soient assurés que le décret céleste concernant leur destruction ne sera pas changé. Ce que Dieu a dit allait se passer. Ils méprisaient toutes les prophéties. Ils défendaient leur propre forme de culte impie et dépravé. Et ça, c'était de l'orgueil. C'était aussi de l'insolence à l'endroit du Dieu de l'Alliance. Même les alliés qui avaient autrefois courtisé se moqueront de la chute d'un Israël insensé et affaibli. Nous lisons verset 16. C'est ce qui les rendra un objet de risée dans le pays d'Égypte. En essayant de s'associer aux autres pays, Israël se croyait à l'abri. Car ils peuvent instantanément appeler les Égyptiens à leur secours. Si quelqu'un s'opposait à eux ou si un ennemi les envahissait, ils pouvaient faire appel à la Syrie aussi. Or, puisque leur confiance repose sur l'Égypte, je ferai en sorte que les Égyptiens les méprisent. Je les livrerai à toutes sortes d'opprobes parmi leurs amants. Parce que c'était des amants. Parce que dans l'idolâtrie, on parle d'adultère spirituel. Donc l'idole est un amant. En fait, c'est imagé ici, mais c'est comme si on allait vers des amants. Les Israélites pensaient que l'Égypte et la Syrie offraient plus de sécurité que leur Dieu. Israël infidèle sera la risée de ses amants. Nous commettons le même type de péché lorsque nous cherchons nos épanouissements dans les richesses de ce monde. Lorsque nous recherchons notre quiétude, notre bien-être si bas dans des choses qui sont éphémères. Mais le risque, c'est que nous soyons la risée de tous ceux qui sont sur terre et de tous ceux qui sont à l'image de Dieu et de tous ceux qui sont des créatures de Dieu. En conclusion, dans le contexte des Écritures et de l'histoire, la chute d'Israël décrite ici n'a rien de remarquable. La prospérité dont jouissait la nation dans les années précédentes, le prophète, ont conduit à une corruption, ce qui a déstabilisé le gouvernement et a placé des usurpateurs, des imposteurs sur le trône. Un peuple autrefois fier par son identité est tombé, a été conduit et qui est dans l'humiliation. Cela se produit pratiquement à chaque siècle de l'histoire. Qu'il s'agisse de l'ancienne Babylone, de Rome ou des empires qui sont plus modernes, nous voyons qu'il y a des rois qui tombent aussi. Ils ne sont pas éternels. On a vu dernièrement en Syrie, à Damas, Bachar el-Assad. Ainsi de suite. On a vu des Kadhafi de ce monde. On a vu des Saddam Hussein de ce monde. Ils ne sont pas éternels. Mais Dieu, lui, il est éternel. Ce qui est remarquable, c'est l'image du cœur souffrant de Dieu, regardant un peuple qui est pécheur. Un peuple luttant lui-même à cause de son désir inébranlable de faire preuve de miséricorde. Malgré l'ampleur du péché des Israélites, le Seigneur déclare « Je voudrais les sauver. Je voudrais les sauver. » Chers frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas attendu un peuple meilleur et un contexte plus favorable pour envoyer son Fils unique en tant que Rédempteur, en tant que Sauveur, pour refléter sa grâce, pour que nous ayons la paix. Dans la plénitude de son calendrier souverain, Dieu a envoyé son Fils pour racheter un peuple une fois pour toutes du péché et de sa ruine. Au bout de 3 ans, Jésus s'est tenu devant la ville sainte, Jérusalem. La situation avait-elle changé au cours des 700 ans qui s'étaient écoulés entre Osée et le Christ? Non. La situation était pareille. La réponse a été entendue lorsque le peuple a crié pour que Jésus soit crucifié. Ils ont crucifié le Christ. Comme toujours, un peuple pécheur s'est rébellé dans l'incrédulité et les compromis mondains. Dieu les aurait rachetés, mais ils ont proféré des mensonges à l'encontre de son Fils pour le faire crucifier. Pourtant, Jésus se tenait sur le point d'entrer dans la ville, répétant dans Luc 13, verset 34, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Pourtant, de sa mort expiatoire, est né un peuple nouveau. Rendu volontaire par l'esprit de la grâce de Dieu dans sa puissance salvatrice. Psaume 110, verset 3. Le Seigneur nous invite à nous joindre à ce peuple dans un salut pour la vie éternelle et par la foi en Jésus seul. Osée 6, verset 6 déclare « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » La voix du prophète Osée peut être entendue aujourd'hui dans un message évangélique du Christ qui nous appelle, comme nous le lisons dans les versets 1 à 3 du chapitre 6. « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous élèvera et nous vivrons devant lui, connaissant, cherchant à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » N'est-ce pas beau comme promesse? Que même si nous vivons dans ce monde où tout est éphémère, où tout passera, les princes et les rois de ce monde ne sont pas éternels. C'est pas une telle personne qui va améliorer notre situation. C'est pas des appels incessants pour résoudre une situation qui vont nous rassasier de patience. C'est de rechercher la voix du Seigneur dans la prière, priant, cherchant à connaître notre Dieu. Éloignons nous du monde. Proclamons la parole, mais nous n'avons pas besoin de vivre comme les impies. Nous n'avons pas besoin d'avoir pour modèle des pécheurs, parce que nous avons un modèle ultime et exceptionnel en la personne du Christ Jésus, qui est venu parmi nous, qui s'est humilié, qui s'est donné pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Amen.